Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Tout est politique, le carnet de bord de la bataille culturelle sur Radio Courtoisie. Nous sommes ensemble de midi à 13h30 pour une émission consacrée au redressement de la France et notamment à la question épineuse de l'immigration. Chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en écrivant au courriel courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr ou téléphoner au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Il est de ces hommes qui travaillent méticuleusement, patiemment à humilier, déconstruire, anéantir notre mère patrie, la France. Je les appelle les partisans de l'anti-France. De qui parlons-nous ? Tant des européistes fada arc-boutés à leur drapeau étoilé et à la doxa bruxelloise. Depuis plus de 30 ans, ils nous promettent la Lune, un avenir radieux grâce à l'acte unique, à Maastricht, au traité de Lisbonne, que sais-je. Résultat, une souveraineté française dissoute dans le machin européen à broyer les nations. Résultat, une croissance en berne. Résultat encore, des injonctions sociétales inacceptables et des mesures liberticides. De qui parlons-nous encore ? De l'extrême gauche s'appliquant à assimiler l'amour de la France à l'intégrisme catholique, aux chemises noires, au fascisme, bref, une litanie de sottises. Leurs manifs et autres collectifs de droit à ceci et de droit à cela arborent des drapeaux, certes, mais des drapeaux rouges, rouge sang, le sang des 100 millions de morts du communisme, le sang de la terreur et des purges. Ou encore ces excités et pétulants gauchistes brandent des drapeaux LGBT palestiniens, de la jeune garde. Mais jamais, jamais au grand jamais, vous n'y verrez un drapeau français. Les minorités font l'histoire, rappelons-le, tapis dans l'ombre, il est de ces hommes qui, modestement, valeureusement, consciencieusement, travaillent au redressement de la France. Invisibles, modestes, ils œuvrent, sans vanité, à reconstruire la patrie et à panser ses plaies. Certains s'engagent dans un mouvement patriote, d'autres œuvrent dans une association pour les chrétiens, d'autres encore s'informent, militent, se forgent, tâchent de convaincre leurs voisins, écoutent Radio Courtoisie. Ils agissent au quotidien à leur manière pour redresser la France et mener dans leur village, leur quartier, la bataille culturelle. Pourquoi ? Ils aiment la France, tout simplement. Rendons-leur hommage. Aujourd'hui, pour illustrer mes propos, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de marque. D'abord, le général Didier Tauzin, ancien candidat à l'élection présidentielle et auteur du livre « Sauvons-la et rebâtissons-la sur le roc de la Grande Charte de France ». Et en deuxième partie, nous aurons l'honneur d'accueillir Nicolas Pouvreau-Monty, cofondateur et directeur général de l'Observatoire de l'immigration. Donc pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir le général Didier Tauzin. Bonjour mon général.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Merci. Je vous entends à peu près.
Merci. Donc mon général, vous êtes né au Sénégal en 1950, formation au Pritané, Saint-Cyrien, militaire dans les forces spéciales, passionné et connaisseur de l'Afrique, candidat aux élections de 2017 et surtout, comme je le disais dans mon édito, un amoureux de la France. Vous avez écrit il y a 2 mois un livre intitulé, que je remontre, elle s'appelle France et nous appelle au secours, sauvons-la et rebâtissons-la sur le roc de la Grande Charte de France. Votre livre est non seulement une ode d'amour à la France, c'est un projet pour la sauver, la redresser, perpétuer son âme, un projet que je dirais presque sacrificiel, car vous n'êtes pas, dirons-nous, un politique ou un politicien comme il est employé de manière triviale. Vous êtes un général à la retraite et vous êtes surtout un amoureux de la France, puisque après l'avoir servi, après avoir donné votre vie professionnelle à votre patrie, vous décidez de la servir à nouveau, d'une autre manière, sous un angle politique avec un grand P, et vous mettre à son service en vous présentant avec un programme, un projet, je dirais plus que cela, c'est presque une démarche christique. Donnez votre temps pour la France et pensez à la France pour 200 ans. Dans votre livre, vous avez à cœur de rappeler l'enracinement chrétien de la France, et je dirais que c'est un fil conducteur de votre projet, et le projet s'articule autour d'une philosophie, je dirais personnaliste, avec le principe de la souveraineté nationale comme préalable, de l'attachement viscéral à la voix du peuple, avec comme seul guide le bien commun, la subsidiarité, le référendum. Alors, mon général, pourquoi ce livre à 15 mois des élections présidentielles ?
Tout simplement parce qu'il m'a été demandé. En 2017, j'étais candidat à la candidature, n'est-ce pas, parce que je n'ai pas pu me présenter, Si j'avais accepté les conditions qui m'étaient faites par ce qu'on appelle le système désastreux des partis ou l'état profond, etc., je crois que j'aurais été élu président de la République, j'en ai à peu près la conviction. Mais je les ai refusées parce qu'elles allaient contre mes convictions personnelles, contre ce que je vois, ce que je sais, la façon dont j'apprécie la France, dont j'aime la France. Et ça allait exactement contre la France telle que je la conçois, je l'aperçois. Donc j'ai refusé. Je ne cherchais pas une place, je ne cherchais pas à me faire des frics, n'est-ce pas? Je cherchais uniquement à servir la France. Et là, c'était des conditions qui me conduisaient à ne plus la servir. Donc, à partir de là, si vous voulez, j'ai constaté que le système désastreux des partis, comme disait De Gaulle, s'était réapproprié toute la République et que donc il était inutile de se relancer. Mais comme je suis un homme formé, un homme de devoir, formé dès mon enfance au service, eh bien, j'ai décidé de rester disponible parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup étudié les idées politiques tout au long de ma vie, à partir de ma conversion en 1975. Et j'ai décidé de rester disponible. Et de fait, j'ai été appelé une bonne douzaine de fois depuis 2017. Et j'ai bien sûr mis de côté aussitôt toutes les. Mon général fait un coup d'État ou entrer dans une société secrète, etc. Refusé. Et puis donc, il y a 1 an et demi maintenant, il y a une équipe d'anciens de 2017 en particulier qui sont des gens très, très engagés, très forts, très, très droits, qui m'ont demandé si j'acceptais de éventuellement me relancer. C'est donc à leur demande que j'ai écrit ce livre. Hein, et je précise bien qu'il ne s'agit pas d'un programme politique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais plutôt un projet pour sauver la baraque, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, parce qu'elle est en très grand danger maintenant. Hein. Donc, d'ailleurs, vous aurez remarqué dans ce livre que j'y mets des conditions. D'abord, je dis, oui, je suis prêt à y aller si je suis appelé. Donc, si vous voulez que j'y sois, débrouillez-vous, sans violence. Et ensuite, si vous m'appelez, voilà mes conditions. Et si vous ne respectez pas mes conditions, eh bien, je quitte immédiatement les fonctions parce que je ne vais pas m'engager à 75 ans pour faire du raccommodage. Hein, et je m'engage pour travailler sur le fond. Voilà. Voilà d'où vient ce livre.
Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la société secrète, puisque vous dites dans votre livre, je n'ai pas pu participer au premier tour de 2017 car j'ai refusé d'entrer dans une société secrète. Mais alors, qu'est-ce que vous entendez par là?
Ah ben vous savez très bien, tout le monde sait ce
D'accord.
que ça veut dire, les
Bon,
sociétés
d'accord.
secrètes.
Bon, très
C'est
bien.
pas la peine de
Alors,
faire des
je vais
dessins,
pas
n'est-ce
plus
pas?
loin. J'ai pas plus loin. Alors, j'ai lu votre bouquin avec passion et intérêt, puisque je suis un amoureux de la France comme vous. Selon vous, pourquoi la France aujourd'hui est-elle si malade? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à chaque génération, ou toutes les 2 ou 3 générations, nous avons l'impression que la France est malade et que c'est, entre guillemets, exceptionnel? Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment plus malade que depuis 1500 ans?
Oui, je crois que si on ne fait rien de radical maintenant, à vue humaine, je dis bien à vue humaine parce que nous ne sommes pas le bon Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, si nous ne faisons rien de radical, à vue humaine, elle est morte dans quelque temps. Hein. Les causes, si vous voulez, il y a 2 types de causes. Hein. D'abord, des causes récentes, sachant que 50 ans en histoire et en politique, c'est récent, 50 ans, c'est peu de choses. Hein. La France existe depuis maintenant 1500 ans, et l'Iran depuis 3000 ans, etc. Hein? Donc, la cause récente, si vous voulez, c'est le retour de ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis. Il avait d'ailleurs dit lui-même, juste avant de quitter l'Élysée, eh bien, si le système désastreux des partis revient, la Ve République est morte. De fait, regardez, depuis 1789, nous avons eu 5 républiques, 2 empereurs, 2 rois et le maréchal Pétain. 10 régimes différents, ça n'arrête pas. Hein? Bon, bien, c'est pas pour ça, je prône pas forcément le roi, c'est pas ça le problème. Hein? Et c'est-à-dire que nous sommes sur une pente descendante permanente depuis maintenant au moins 250 ans. Mais en fait, quand on regarde les causes profondes, Eh bien, c'est dur, c'est beaucoup plus ancien. C'est parce que depuis 1000 ans environ, peu à peu, vraiment peu à peu, nous avons abandonné les racines chrétiennes de notre civilisation, qu'on le veuille ou non. La civilisation européenne a des racines chrétiennes. Couper les racines d'un arbre, il crève. Couper les racines chrétiennes de la civilisation européenne, elle disparaît.
Voilà pourquoi vous parlez de
Nous avons
250
peur.
ans. Pardon, je vous interromps.
Pardon?
C'est pour ça que vous parlez de 250 ans, vous parlez de la Révolution.
Oui, mais ça, la Révolution a été un point de bascule, si vous voulez, parce que ça a commencé bien avant.
Bien
Hein,
sûr.
bon, pour les connaisseurs, ça commence avec Guillaume d'Occam, ça a commencé, etc. Bien. C'était un point de bascule, la Révolution. Mais c'était bien plus ancien. Donc, peu à peu, nous avons abandonné les racines chrétiennes de notre civilisation, qui sont exceptionnelles. Ce sont les seuls à affirmer, par exemple, l'exceptionnelle dignité de toute personne humaine. Hein? Elle est fondée sur des quantités de principes. Vous avez dit tout à l'heure la recherche du bien commun, la subsidiarité, etc. Tout à fait d'accord. Qui découle de deux principes fondamentaux. Deux principes fondamentaux. L'être humain, quel qu'il soit, homme, femme, enfant, vieillard, jaune, blanc, gris, peu importe, catholique, protestant, peu importe. Tous les êtres humains ont une éminente dignité et une égale dignité, parce qu'ils ont tous été voulus par un créateur. Voilà, pour régner sur la création. Ça, c'est le premier principe. C'est énorme. Vous n'avez aucune idéologie à affirmer cela. Au contraire. Et le deuxième principe, c'est que du fait de la dignité de l'être humain, tout détenteur d'autorité, que ce soit le père de famille, le chef de l'État, le chef militaire, peu importe, tout détenteur d'autorité a pour vocation de servir, tout faire pour favoriser le développement de la dignité de cet être humain, pour favoriser son développement intégral, le servir, et non pas se servir. Et non pas se servir. Or aujourd'hui, si vous voulez, on a radicalement inversé. Aujourd'hui, l'être humain, c'est un truc, c'est un machin. D'ailleurs, qu'on euthanasie quand il coûte trop cher, maintenant, c'est ça. Hein. On le met au service du fric, au lieu de mettre l'argent au service de l'être humain. Bien. Hein. Et puis, les chefs, attention, pas tous. Pas tous. Hein. Les chefs militaires en particulier, j'en connais beaucoup, ils sont pas du tout sur ce que je vais dire. Hein. Voilà. Hein. Mais les chefs politiques en particulier, et la plupart de manière totalement inconsciente, se servent de l'être humain au lieu de le servir. Aujourd'hui en France, nous sommes dans une tyrannie de fait. Pas forcément de droit, mais dans une forme de tyrannie. Hein? Nous avons de moins en moins de liberté. L'argent nous est ponctionné pour. Bon, au lieu de faire des écoles, des hôpitaux, etc., eh bien on s'en sert pour avoir des représentants qui souvent ne servent à rien, ou alors un système de représentation et d'organisation territoriale qui sont bon, aberrants, hein, etc. Donc, l'être humain est mis, enfin, le chef n'a plus, ne respecte pas sa vocation de servir, mais il se sert. Et c'est ça, si vous voulez, qui conduit à la situation à laquelle nous sommes. Et si nous n'inversons pas radicalement, c'est-à-dire si nous ne revenons pas aux racines politiques chrétiennes, attendez, je dis bien les racines politiques chrétiennes, je n'ai pas dit qu'il faut envoyer tout le monde à la messe, il faut interdire les autres
Oui,
religions que
vous défendez
catholiques.
pas une
Non, non, il ne
théocratie, c'est
s'agit pas
ce
de ça, il s'agit de racines politiques chrétiennes. Parce que quand vous regardez, par exemple, les idéologies, elles ont pour point commun de instrumentaliser l'être humain pour des objectifs politiciens, idéologiques. Et au fin fond des choses, toutes les idéologies, je les ai toutes étudiées, sauf le wokisme, bon, toutes les idéologies ont un point commun, c'est le refus d'obéir à Dieu, le refus de se référer à Dieu, c'est le refus, en fait, du catholicisme, du christianisme. Et donc, si nous ne revenons pas aux racines chrétiennes, eh bien, on va complètement dévoyer, errer vers la disparition pure et simple.
Alors,
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
absolument. Alors, je rappelle que nous sommes donc avec le général Didier Tauzin pour son livre Elle s'appelle France et nous appelle au secours. Sauvons-la et rebâtissons-la sur le roc de la Grande Charte de France. Alors, ce titre m'a interpellé. Pourquoi? Parce que vous dites, elle s'appelle France et nous appelle au secours, comme si vous entendiez par là que certains, nombreux donc, auraient oublié volontairement ou non que nous sommes français, que nous sommes dans un pays qui s'appelle France et que nous vivons dans une patrie qui est mal en point. Est-ce que ce titre sous-entend ce que j'ai compris ?
Oui, je crois que vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris. Il y a un, comment s'appelle ? Comment dirais-je ? Un besoin de France, quand on discute avec les gens, que ce soit à la campagne ou en ville, etc., il y a un besoin de retrouver la France. Elle est en train de disparaître. Je vais peut-être me mettre à pleurer, faut faire attention.
Bah écoutez, il n'y a pas de mal. Hein.
Mais oui, hein, tout le monde sent maintenant que la France est en train de s'écrouler. Or, l'amour de la France fait partie de l'être du français. Et ça depuis Clovis, mon d'une pipe. C'est pas depuis De Gaulle, c'est pas depuis Emmanuel Macron, c'est depuis Clovis. Hein. L'amour de la France. Hein, donc il y a un besoin de retrouver, de renouveau de la France. Non pas pour faire la guerre, non pas pour le fric, etc. Non, mais par amour de la France. Voilà. Ça c'est quelque chose qui me frappe chaque fois que je parle avec. J'ai encore participé à une série de conférences il y a quelques jours, mais c'est étonnant le nombre de gens qui disent « Et la France ? Et notre France ? Quand est-ce qu'elle va revenir ?» etc. Donc, il y a un besoin de France.
Alors,
il faut dire aussi, pardonnez-moi,
je vous en prie.
Voilà. Il faut faire aussi la différence entre la France et tel ou tel système politique.
Hein, on parle de la République à longueur de temps.
Oui,
plus que
la
de la
différence,
France.
Ce n'est pas la France, ce n'est pas la République. Mmh. La République n'est qu'un système politique, mmh. hein, comme l'était la royauté. Hein, c'est un système politique. Or, envoyer des gamins se faire tuer pour la République, ah non. Pour la France, oui, c'est autre chose. Hein, mais il faut distinguer ça. Et de plus en plus de gens le voient parce que le système est en train de s'écrouler. Il est en train. Moi, j'ai écrit dans ce livre donc que la Ve République, son cadavre bouge encore, mais elle est morte. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On en fait une sixième, puis une septième, une huitième, une dixième.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, vous êtes l'heureux élu.
Oh.
Quelles sont les trois mesures que vous prenez, les trois premières ?
Alors,
pour
attendez,
être concret pour nos auditeurs.
D'abord, premièrement, faut-il qu'il y ait des élections. Je précise quand même, mon point de vue. Tout à l'heure, je disais que j'ai compris en 2017 que le système est complètement bloqué parce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, avec tout ce qu'il y a derrière, Epstein et compagnie. Donc, si en 2017, il y a des élections, ce qui n'est pas certain, eh bien, il est très, 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 très probable que le système désastreux des partis continue de tenir la baraque. Donc, l'élu sera soit désigné par le système des partis, soit accepté par le système des partis. Donc, ça ne sera pas moi. Parce que je refuse d'entrer dans ce système-là, par amour de la France et pour servir de la France. En revanche, il est possible qu'il n'y ait pas d'élection l'an prochain, parce que la situation tant intérieure au niveau national, français, que la situation européenne ou la situation mondiale me laisse penser qu'on va vers des moments de grande bascule. Quand, comment, je ne sais pas. Et je ne suis même pas certain que cela se produise. Mais nous sommes dans une période de grand changement de l'histoire. Voyez-vous, il y a déjà pas mal de temps, je n'ai jamais écrit, je crois, du moins. Je pense que l'Occident est en train de vivre depuis quelques années ce que le bloc soviétique, à commencer par l'URSS, la Russie, a vécu entre 88 et 95.
Vous parlez d'une décomposition.
Pardon ?
Une décomposition.
La décomposition du bloc soviétique. Et je crois vraiment, et la guerre d'Iran est un indice supplémentaire pour moi, je crois que Trump, c'est, en français moderne, il s'est planté. Il s'est trompé dans cette affaire-là. Et je crois que ça risque de vraiment très mal tourner, au détriment de l'Occident tout entier. En fait, oui, je crois que nous sommes en train de vivre ce que le bloc soviétique a vécu. Alors, bien sûr, cela risque d'être très difficile, mais Pour le long terme, pour nos enfants, nos petits-enfants, eh bien tant mieux. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement dans un système où l'être humain n'est qu'un truc, n'est qu'un objet.
Vous pensez
Hein,
qu'il faut, il faut que on passe par le chaos pour qu'on ait une prise de conscience, c'est ce que vous voulez dire?
Alors, le chaos, au moins un problème. Le chaos, peut-être pas, mais enfin, j'espère pas le chaos. Hein. Mais il faut que certes, les choses changent énormément. Il faut qu'elles changent. Alors, j'en appelle surtout pas à une guerre civile, un coup d'État. J'ai fait 30 opérations extérieures et j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. Merci, je n'en veux pas en France. Je ne ferai certainement pas ça. Hein. En revanche, on risque fort d'avoir des. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, maintenant, j'en connais, et j'admire leur travail, parce qu'ils cherchent toujours à faire cela avec beaucoup comment dire, de prudence, sans déclencher le chaos. Beaucoup de gens qui veulent changer le système, radicalement changer le système. Parce qu'on a tout le monde comprend qu'on va dans le mur. On est en train de détruire la France. Mais est-ce que ce n'est pas la volonté de quelques-uns de détruire la France? Je pense que c'est la volonté de quelques-uns depuis très très longtemps. Voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré, je connais un peu le cardinal Sarah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, bien sûr, le
Mmh,
cardinal Sarah,
bien sûr.
le cardinal guinéen qui a une belle réputation en France. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et puis, un jour, au cours d'une journée entière passée ensemble, il me dit, d'abord, il me dit, écoutez, on vous doit tout. Pourquoi vous nous avez laissé tomber? Ça, vous savez, ça brasse. Un homme moi, je suis amoureux de l'Afrique noire, ça m'a beaucoup brassé. Hein. On vous doit tout bien. Mais il m'a dit aussi, surtout, alors c'est un langage de prêtre, attention, un langage de prêtre. La France a porté le message du Christ pendant 1500 ans, maintenant elle porte le message de Satan. Voilà. Et ça, si vous voulez, bon, c'est un langage, encore une fois, c'est un langage de prêtre. Bien. Donc ça, si vous voulez, c'est très très fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change radicalement, sinon on va à l'abîme. Sinon on va à la destruction. Bon, beaucoup de choses me font penser qu'on n'ira pas à la destruction de la France. Les choses vont changer d'une manière très positive. Mais en attendant, ça va faire mal. Pourquoi? Parce qu'il y a, si vous voulez, toutes les idéologies d'un côté et de l'autre côté, les idéologies qui, elles, sont en train de s'effriter, si vous voulez. À partir de 1789, justement, elles étaient fondées depuis pas mal de temps, en suspens, hein, en attente. Hein. Eh bien, elles ont cru à partir de 1789, ça y est, on a gagné. Très bien. Et donc, à partir de là, on a créé le nationalisme, l'internationalisme, le communisme, le fascisme, etc., le wokisme, etc. Hein, tous les idéologies. Mais arrive mai 68. Qu'est-ce que c'est mai 68? C'est le nihilisme. Le nihilisme. Voilà. Donc, on n'offre plus comment dire, aucun absolu. L'être humain a besoin d'absolu, a besoin de grandeur.
De transcendance,
Là, avec mai 68,
vous diriez,
comment?
de transcendance.
De transcendance. Merci beaucoup. Hein? L'être humain a besoin de cela. Mai 68, on lui offre plus du tout cela. La consommation. Consumérisme, etc. Bien. Donc, c'était la fin des idéologies. Enfin, la fin, complètement, bien sûr, mais enfin, elles étaient sur leur en train de. Bien. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit au niveau mondial, mais aussi au niveau national, français, irlandais, britannique, etc., etc. Un renouveau du christianisme de manière terrible. Enfin, terrible, magnifique, pour le chrétien que je suis. Un renouveau du christianisme. Vous avez des pays, par exemple, l'Indonésie, qui le pays musulman le plus nombreux au monde, qui se demande si, en 2035, dans 10 ans, ils ne seront pas majoritairement chrétiens. Vous avez un nombre d'adultes en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc., etc., un nombre d'adultes chaque année qui demandent le baptême, qui explose. Bien. Ça veut dire que il y a un renouveau du christianisme et donc un retour progressif, il y aura un retour progressif aux racines chrétiennes. La situation européenne et française en particulier. Mais les idéologues de l'autre côté, qui voient cela aussi, eh bien, ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils ne vont pas rester comme ça. Hein. Ils savent déjà, ou ils pensent, ils estiment qu'ils sont en train de perdre la partie. Et donc, ils vont, à mon avis, réagir, avoir cette réaction que dans l'armée, nous appelons le réflexe du fauve blessé, gravement blessé et acculé. Il sait qu'il va se faire tuer. Donc, il fonce pour faire un maximum de dégâts et essayer de s'en sortir. C'est ça qui risque de se passer maintenant. Donc, chaos, je ne sais pas, mais des très, très gros problèmes.
Alors,
Ça, j'en suis intimement persuadé. Et réponds.
je reprends ma question précédente pour être très concret pour nos auditeurs. Les trois premières mesures essentielles
Oui,
à
pardon.
prendre en arrivant au pouvoir. J'ai lu votre
Alors,
livre,
si vous
mais je
voulez,
préférerais que vous le disiez vous-même.
oui, vous avez raison, je suis allé un peu plus
Non, mais
loin, pardon.
je vous en prie, c'est pour être concret.
Oui, d'accord. Alors, si vous voulez, la première mesure, c'est il faut faire le maximum, je ne dis pas que ça va marcher tout de suite, hein. Il faut faire le maximum pour éviter que la France n'entre dans cette guerre mondialisée, j'ai pas dit une guerre mondiale type 14-18 ou 39-45, non, non. Voilà. N'entre dans cette guerre mondialisée que nous risquons. Hein. Et je dis bien, j'y ai beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Cette guerre, encore une fois, elle n'est pas certaine. Le pire n'est certain que lorsqu'on y est. Et cette guerre avec des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc., 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 peut provoquer jusqu'à 6 milliards de morts sur 8, dont 400 millions en Europe et 40 millions en France. Ce n'est pas une certitude, heureusement. Mais la première chose à faire, c'est de empêcher autant que possible que la France ne soit dans cette affaire-là. Pour cela, il faut
Sortir de
quitter
l'OTAN?
l'OTAN, il faut... Pardon?
Sortir de l'OTAN.
Il faut d'abord quitter l'OTAN, qui est une machine de guerre, qui ne se justifie plus. Il faut se désolidariser de l'Europe pour toutes les mesures militaires anti-russes, etc., etc. Et s'ils ne veulent pas, on quitte l'Europe définitivement. Il faut retrouver notre souveraineté, et puis... Il faut, à partir de là, une fois qu'on aura fait ça, ce qui est déjà énorme, eh bien, développer et promouvoir une politique pacifiante. J'ai pas dit pacifiste,
Alors
une
attendez, vous
politique
sortez de
pacifique.
l'OTAN, vous sortez aussi de l'euro, vous faites le Frexit?
Pardon?
Vous faites le Frexit? Vous sortez de l'Europe,
Alors,
de Bruxelles?
moi, ce que je suis, oui, je Ça dépend de ce qu'on appelle Frexit. J'ai bien dit sortir, se désolidariser de l'Europe pour toutes les mesures militaires et diplomatiques, parce que l'Europe aujourd'hui, c'est une machine qui nous conduit à la guerre.
Alors
Elle nous conduit à la
pourtant, la
guerre.
promesse était l'inverse. C'était
Oui,
de
la
dire
promesse
qu'avec
était
l'Europe.
l'inverse. La promesse était l'inverse. Mais vous savez, on s'est fait piéger. Je connais quelqu'un qui m'a dit récemment, mais si on continue comme ça, on va à la guerre. Au nom de l'Europe. Donc, je n'ai pas dit sortir complètement de l'Europe. Je ne suis pas contre. Je préférerais, si vous voulez, ça c'est plutôt dans la deuxième mesure. Je préférerais plutôt qu'on transforme l'Europe. Aujourd'hui, on va avoir une fédération, c'est-à-dire les pays européens qui entreraient dans la fédération perdraient leur souveraineté. La seule souveraineté serait à Bruxelles. Ou plutôt à Berlin. Bien. Hein? Et la France n'aurait plus aucune souveraineté, ni la Belgique, ni l'Italie, etc. À cela, je préférerais une confédération. La confédération, c'est une association d'États souverains qui transmettent à un organisme, la confédération, si vous voulez, pardon, certaines prérogatives que seuls ils ne peuvent pas, par exemple, l'immigration. Ouais, ou d'autres choses encore. Mais une confédération d'États souverains. Pour moi, la souveraineté, c'est quelque chose de très important. Donc, ce n'est pas rejeter l'Europe. Non, non, l'Europe a toujours eu besoin d'unité, et pour tout au long de l'histoire européenne, il y a des gens qui ont voulu faire l'unité, mais ça a toujours mal tourné, parce que soit ils voulaient ça, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, ils voulaient ça pour eux-mêmes, pour avoir du pouvoir, etc., etc. Donc, je ne suis pas contre une unité européenne, mais pas celle que nous allons vivre en ce moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre
Si, si,
question.
absolument, absolument. Donc, on en était aux mesures. Et il y en a une autre. Alors, je rappelle que nous sommes avec le général Didier Tauzin pour son livre notamment Elle s'appelle France et nous appelle au secours. Sauvons-la et rebâtissons-la sur le roc de la Grande Charte de France. Pardon, mon général, je vous laisse reprendre la parole.
Bon,
Sur une
je vous en
mesure,
prie, je vous en
une
prie.
des trois mesures essentielles pour vous.
Oui, trois mesures essentielles. La mesure essentielle est après celle-là.
Vous parlez
Donc
d'immigration. Vous
d'abord.
parlez d'immigration. Tout à l'heure, nous recevrons quelqu'un qui est spécialiste de l'immigration, dont j'ai parlé dans mon édito. Vous êtes pour la remigration, par exemple?
Attention. La remigration des gens qui ne veulent pas s'assimiler, peut-être. Ouais. Parce qu'on n'est pas arrivé au bout, là, si vous voulez. Je suis allé un petit peu autrefois dans ce qu'on appelle les banlieues, n'est-ce pas, hein? Et puis je me suis informé. Et puis, parmi ces gens-là, la grande majorité de ceux qui sont venus volontairement, parce que vous avez aussi les gens qui ont été envoyés. Hein, qui sont pas venus d'eux-mêmes. Mais la grande majorité des gens qui sont venus volontairement sont venus soit pour fuir un système dramatique chez eux, fuir par exemple la charia, pour trouver de la sécurité, pour trouver du travail, et puis ils viennent chez nous. Hein. Ils ne sont pas accueillis correctement. Je ne dis pas que nous sommes fautifs en toute chose, non. Notre État, notre système. Regardez ce que fait Mélenchon. Mais il se sert de ces gens-là pour sa politique intérieure, pour sa propagande politique. Hein? Bien. Donc il faut faire attention. Ensuite, ce sont des êtres humains qui ont la même dignité que nous. Ceux qui veulent s'assimiler, devenir français, mais pourquoi ne resterait-il pas? Par contre, les fauteurs de troubles, ben ça c'est autre chose. Hein? Mais il faut d'abord, de toute façon, arrêter l'immigration pendant une longue durée pour favoriser, pour assimiler les gens qui sont ici. Ça, c'est une nécessité. Après, on verra.
Donc vous arrêtez les flux.
Mais, pardon?
Vous arrêtez les flux.
Je n'ai pas compris.
Vous arrêtez les. Vous mettez fin aux flux pour pouvoir
Ah oui,
assimiler.
mais ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Vous savez, on connaît les chemins, on connaît les acteurs, etc. On peut arrêter les flux très vite.
Vous pensez qu'on peut arrêter les flux très vite?
Je pense vraiment qu'on peut arrêter les flux très vite. Je pense. Et en plus, il faut le faire. Ça devient une nécessité de sauvegarde de l'unité nationale, de la tranquillité chez nous. Et puis ensuite, il faut comment dire, travailler à l'assimilation de ces gens-là. Mais quand j'étais en activité encore, Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense à l'époque, m'a demandé de créer sur le territoire métropolitain, l'équivalent du service militaire adapté. Alors, le service militaire adapté, c'est un service d'insertion pour les jeunes de tout l'outre-mer, qui fonctionne très très bien. Je le commandais à l'époque. Et donc Michel Marie me demande la même chose. C'est ce qu'on a appelé l'établissement public d'insertion de la Défense. Mais 95% des jeunes, garçons et filles, qui venaient volontairement,
Je vous entends, je vous entends.
95% des jeunes garçons et filles qui venaient étaient des descendants d'immigrés. C'était des immigrés. Et j'ai une image que j'ai vécue. Il fallait avoir un niveau très très bas pour être admis. Eh bien, un jour, il y a deux gamines qui avaient un niveau trop élevé pour rester chez nous. On leur dit, bah, écoutez, il faut partir. Deux gamines, de black en français moderne, ne sont pas contentes, et puis elles s'en vont, elles s'arrêtent au pied du mât des couleurs, et chantent la Marseillaise. Énorme. Une autre fois, j'entre dans une salle de classe, il y avait là que des descendants d'immigrés, hein. Et puis j'écoute, etc. Puis en sortant, une gamine, encore une fois une noire, me dit, non, Gérald, est-ce que je peux vous serrer la main? Je dis, bien sûr, j'étends la main. C'est la première fois qu'on m'aime. Vous
Ouais, message
vous rendez
d'amour.
compte un peu? Il y a un service d'insertion qui fonctionnait très bien. Je pense qu'il est devenu, je crois qu'on a mis fin. Voilà.
Alors, vous dites,
Alors,
pardon, allez-y, je vous en prie. J'avais une question, mais je vous laisse finir. Allez-y, allez-y, il nous reste encore, encore une grosse dizaine de minutes.
Une grosse dizaine de minutes. Bien. Alors, si vous voulez, il y a bien sûr les mesures initiales et déterminantes, si possible, ne pas entrer dans la guerre, retrouver la souveraineté, ensuite refaire l'État, faire des économies, etc., arrêter l'immigration, etc. Bien, OK. Ce sont des mesures nécessaires. Relancer la natalité, refaire l'école, c'est et il y a un chantier énorme. Et si on fait que ça, en gardant les mentalités d'aujourd'hui, eh bien, ça durera 15 ans, maximum, 20 ans peut-être. Bien. Pour rebâtir la France, il faut revenir volontairement et d'une manière radicale, progressive. On ne peut pas faire ça en 15 jours. Il faut revenir d'une manière radicale aux racines politiques chrétiennes. C'est pour ça que nous avons élaboré dès 2017, et je propose toujours, parce que ça reste valide, la Grande Charte de France. La Grande Charte de France. Qui est fondée sur les éléments chrétiens politiques de la France. Voilà. Et c'est-à-dire que nous y réaffirmons d'abord l'héritage français qui date de fort longtemps, puisqu'on a hérité du judaïsme ancien, je dis bien du judaïsme ancien, celui du Talmud, celui de la Torah, pardon, pas celui du Talmud. Il y a aussi les Grecs, les Romains et surtout le christianisme. Et donc on y affirme les valeurs fondamentales de celles dont je parlais tout à l'heure, en particulier l'éminente dignité de tout être humain et la vocation de tout détenteur d'autorité à servir. Et on en déduit ensuite le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est-à-dire le principe de subsidiarité. Par exemple, c'est-à-dire aussi la recherche permanente du bien commun. Mais le bien commun, c'est quelque chose qu'on n'entend plus jamais dans la bouche de nos hommes politiques.
On parle en général d'intérêt général, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Intérêt général, mais ce n'est pas la même chose.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose.
Parce que le bien commun s'enracine dans une référence chrétienne. Donc.
Le bien commun s'enracine dans une référence chrétienne et il est fait pour le service de toutes les communautés, à commencer par les familles, mais il est aussi les communes et la nation et l'humanité. Et l'humanité, il y a un bien commun au niveau mondial, et puis, alors que que vous dites tout à l'heure, l'intérêt général, c'est rien à voir. Donc, et la subsidiarité. Donc, cette grande charte, si vous voulez, c'est un principe, pour moi, c'est fondamental. Je la mettrai, si, n'est-ce pas, je me retrouvais en fonction, je la mettrai au référendum, elle est votée, je continue, elle n'est pas votée, je m'en vais. À 75 ans passés, je ne vais pas m'engager pour faire du raccommodage.
Alors, vous parlez de référendum, d'ailleurs. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que dans votre livre, vous dites que vous revendiquez les pleins pouvoirs pendant 3 ans.
Oui.
Alors, une question, est-ce que c'est assimilable à l'article 16, que nous connaissons dans la Ve République ?
Est-ce que c'est assimilable à quoi ?
À l'article 16, c'est-à-dire que vous prenez les pleins pouvoirs pendant une durée limitée, pas à vos fins personnelles naturellement, mais pour avoir la latitude de prendre toutes les mesures. Est-ce que c'est ça dont vous parlez ?
Alors, c'est, si vous voulez, j'ai écrit aussi que je les demanderai par référendum. Mm-hmm. Mon seul interlocuteur sera le peuple. Certainement pas les partis politiques, aucun. En 2017, il y en a au moins un qui a essayé de m'acheter financièrement, etc. Je n'irai pas lequel, etc. Donc, les partis politiques, je n'y crois plus. Mon seul interlocuteur serait le peuple. Je lui demande les pleins pouvoirs pendant 3 ans. Pourquoi ? Il m'est arrivé dans ma vie militaire, comme dans d'autres circonstances, de devoir redresser une situation. Par exemple, une compagnie aussi, ou un régiment, peu importe. Redresser une situation un peu pagailleuse. À ce moment-là, il faut être ferme. On demande les avis, mais le patron... Il décide, et on ne tergiverse pas, et tout le monde obéit. Or, la France est dans une situation telle qu'il faut aujourd'hui quelqu'un qui ait les pouvoirs et qui ait beaucoup de fermeté, qui ne veut pas dire de la méchanceté, au contraire, mais qui soit en même temps au service. Il faut redresser la barre. Nous sommes comme un bateau qui part vers un iceberg.
Un bateau sans quille.
Pardon ?
Un bateau sans quille.
Voilà, un bateau sans quille, en plus, qui s'en va vers l'iceberg. Il faut beaucoup de fermeté pendant le temps nécessaire. Vous savez, J'ai été patron toute ma vie, hein, par rapport à mon entreprise, etc. Mais j'ai vécu ça plusieurs fois. Il est nécessaire à certains moments d'être très ferme. Et là, il y en a besoin. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la tyrannie qu'on vit aujourd'hui. Parce que le tyran se sert, lui. Tandis que là, il s'agit de servir la France et les Français.
C'est une tyrannie douce aujourd'hui, selon vous.
Ce n'est pas une tyrannie, non. Alors, tiens, puisque vous dites cela, on ne fait plus aujourd'hui la différence. C'est dommage, c'est dommage. On ne fait plus aujourd'hui la différence entre la tyrannie et la dictature. On confond les deux, on parle toujours de dictature à propos de tyrannie. Non, c'est un intellectuel musulman qui, le premier, m'a fait comprendre ça à Beyrouth. Le tyran prend le pouvoir pour se servir, tandis que le dictateur est appelé par le souverain pour servir. Et après, il s'en va. Hein? Bon, maintenant, bon, je dis ça rapidement, et aujourd'hui, on confond tout, n'est-ce pas? L'école, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'école? Et même l'ENA, l'école nationale d'abrutissement. Hein? De tout. Hein? On est dans un pays qui est en train de décliner complètement parce que les gens qui s'appellent, qui s'autoproclament élites sont en fait une caste qui détruit la France. Bien. Donc, je n'ai pas. Voilà, je vous donne une autre question peut-être parce que je peux continuer sur.
Non, ah bah, j'avais encore deux questions. Une question économique. Vous parlez de libérer les énergies économiques. Je reprends
Oui.
votre propre expression.
Oui.
Comment vous assainissez les finances de l'État et libérer les énergies économiques? En quelques mots, puis après j'aurai une dernière question.
Oui. Alors, si vous voulez, l'État aujourd'hui, c'est devenu un monstre. Bien, on a encore embauché, si mes informations sont exactes, on a encore embauché 20 000 fonctionnaires cette année. Bon, il y a beaucoup trop de monde, n'est-ce pas? Et puis, il y a des dépenses qui sont inutiles, très souvent. Bon, voilà. Il faut assainir il faut aussi revoir par exemple, on a un élu pour 300 habitants en France. Au Japon, c'est un pour 5 000. Un pour 5 000. On a un système d'organisation des régions économiques. Bon, franchement, avec le principe de subsidiarité, il n'y a pas besoin de régions économiques. Les maires peuvent s'entendre entre eux et puis créer des succursales, si je peux dire. Bien. On a aujourd'hui, je ne sais plus, je crois, c'est une quarantaine de ministères. Moi, je dis qu'avec 3 ministères d'État et 15 ministères au total, ou 12 ministères au total, on y arrivera, etc., etc. Bon, ensuite, il faut les libérer. On a aujourd'hui 360 impôts et taxes, si ça n'a pas changé depuis 2017. 360! Eh bien, pour 2017, nous avions travaillé avec quelqu'un qui malheureusement est décédé maintenant, à réduire progressivement, on ne peut pas faire ça en 15 jours, hein, le nombre d'impôts taxes à 2 et peut-être une. Voilà. Hein. Et donc, réduire en même temps le nombre de fonctionnaires qui les perçoivent, etc. Vous avez autre chose encore. Les banques, eh bien, il faut faire la différence entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Vous avez comment s'appelle aussi, les syndicats. Ils travaillent toujours, ils fonctionnent toujours sur des idéologies du 19e siècle.
Alors, il y a deux problèmes en France, à mon avis, concernant les syndicats. C'est que, un, ils sont politisés, deux, ils sont pas représentatifs, je pense.
Et puis, ils ne représentent personne aussi. Maintenant, il n'y a plus que 8% déjà des travailleurs qui sont syndiqués. 8%, hein? Mais ils arrivent toujours à empêcher les trains de circuler, etc. Hein? Bon, il y a des quantités de choses à refaire. Nous avions beaucoup travaillé pour 2017, donc il faut reprendre le travail. Mais bon, si on le veut, on le fera. Dernière question.
Alors, dernière question assez vaste, mais pour conclure et pour amener un élan, pour 2027, donc pour 2027, dans 15 mois, deux questions en une. Un, est-ce que vous fermez définitivement, pardon, la porte pour vous représenter? Je parle au plan du principe. Et deux, sinon, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Comment est-ce que les auditeurs qui vous écoutent et qui auraient envie de vous aider, peuvent-ils contribuer à votre projet que je rappelle, elle s'appelle France, elle nous appelle au secours, la grande charte de France.
Eh bien, je vous remercie vraiment pour cette question. Je ne me sens pas le droit de fermer la porte. J'ai été formé depuis ma petite enfance à servir. D'accord? Et je continuerai tant que je pourrai. Bien. Pour l'instant, j'ai encore toute ma tête. J'ai même l'impression que ça s'améliore. D'accord, donc, ça va. Hein. Bon, physiquement, je prends de l'âge, c'est normal. Mais je ne peux pas, je ne me sens pas le droit d'abandonner. Bien. Je disais tout à l'heure, s'il y a des élections en 2027, ce qui n'est pas certain, eh bien, à mon avis, le système désastreux des partis tiendra encore tout. Je peux me tromper. Bon, ceci étant, il y a aussi des gens, et ce livre d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai écrit à la demande d'une équipe qui souhaiterait me réinvestir.
Cette équipe
Si
existe
vous
toujours,
le
mon général?
souhaitez,
Pardon,
comment?
cette équipe existe toujours, mon général?
Cette équipe, oui, non seulement elle existe toujours, mais elle se développe.
Bon, ben, parfait.
Elle se développe, hein? Voilà. Il y a de plus en plus de monde, et puis, ça se trouve, ça se développe. Maintenant, je suis appelé à des conférences à droite et à gauche. Et puis, même des émissions radio, télé, voilà, Radio Courtoisie. Donc, je ne dis pas non pour y aller. Mais à ces équipes, je leur dis, eh bien, allez-y. Comment m'aider? Bon, bien sûr, me faire de la pub, acheter mon livre et le faire circuler, etc., etc., des conférences, etc. Mais vous avez aussi autre chose qui, à mon avis, est fondamentale. Nous sommes en train de créer un collectif de la Grande Charte de France. La Grande Charte de France, pour moi, elle est fondamentale pour rebâtir la France. Voilà. On revient aux racines chrétiennes. Le président, elle est votée par référendum. Le président de la République en est le gardien, le responsable. Il y aurait un conseil de Grande Charte, etc. Et tout le monde, si elle est votée par référendum, tout le monde serait soumis à la Grande Charte de France, y compris Mélenchon. D'accord? Bien. Donc nous créons un collectif de la Grande Charte de France. Et là, si ce collectif rassemble des centaines de milliers, voire des millions, je rêve un petit peu peut-être, d'accord, de gens de partisans de la Grande Charte de France, alors, eh bien, alors là, ça peut avoir un impact très important. Parce que il y a aussi quelque chose, un détail qui peut paraître comme un détail qui ne marche pas en France. En 2017, j'ai eu officiellement 84 parrainages. Mais j'ai su de l'intérieur du Conseil constitutionnel que j'en avais eu plus de 1000.
Alors,
Mais ils ont été.
où sont passés les restants?
Eh bien, le lendemain de l'apparition des parrainages, je téléphonais à plusieurs maires qui, en leur disant, mais je ne comprends pas, vous m'aviez promis. Mais oui, eh bien, l'un, par exemple, était sur la liste de Poutou. Et la plupart étaient annulés. Bien, donc ça, si vous voulez, s'il y a beaucoup d'adhérents au collectif de la Grande Charte de France, ça peut faire une évolution. Le parrainage par des élus, c'est une bonne chose, mais le parrainage par le peuple, ah, ça, c'est autre chose.
Alors concrètement, un auditeur qui veut vous parrainer, qui veut vous aider, là, concrètement cet après-midi, demain, il fait comment?
Alors, pardonnez-moi, je ne sais pas si ça se lit, je ne crois pas,
Non,
non.
non,
Eh bien,
mais quelle est la marche à suivre pour vous soutenir ou pour s'informer ou pour aller plus loin?
vous avez une adresse internet, contact.lgcf, on n'a pas mis la Grande Charte de France, c'est trop long, lgcf@gmail.com.
Donc
Contact.
contact.lgcf, lgcf, donc
LGCF,
comme la
L pour
Grande Charte de
là,
France, contact.lgcf@gmail.com.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors mon général, il y a une coupure parce que comme vous le savez, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs et aux dons, puisqu'il n'est ni subventionné ni vide de la publicité. Donc je vous prie de m'excuser, mais on a fait une petite coupure pour pouvoir faire un appel à nos donateurs. Voilà, je vous laisse conclure. Allez-y, mon général.
D'abord, je vous remercie beaucoup de cette...
Je vous en prie. Moi, je le dis aux auditeurs, achetez le livre parce que vous allez être séduit. Pourquoi ? Parce que c'est un angle différent. Comme vous le disiez tout à l'heure, on sent cette démarche de quelqu'un qui a servi toute sa vie. Voilà. Je ne peux pas dire « et qui aime la France ». Voilà. Si je pouvais résumer, c'est ça. De quelqu'un, mon général, qui a servi toute sa vie et qui aime la France. Donc, c'est un angle différent. Ça se lit très bien. Et il est disponible sur Internet. Tout le monde peut l'acheter. Ça coûte 10 euros, si je peux me permettre de le dire à l'antenne. Mais je vous laisse conclure.
Sachant que
comment les auditeurs peuvent vous aider. Vous parliez du mail. Pardon, mon général.
Eh bien, je vous ai dit, d'abord, la première chose, c'est s'inscrire au collectif de la Grande Charte de France, hein, donc contact.lgcf@gmail.com. Ensuite, éventuellement, m'inviter à faire des conférences, des émissions radio, etc. Proposer mon livre, sachant que les bénéfices que j'en retire sont tous investis pour la France.
Ah, ben ça, c'est. Oui, ben vous avez raison de préciser.
Chercher à faire fortune dans un pays qui est en train de s'écrouler.
Vous avez raison de préciser.
De toute façon, ça n'a jamais été mon dada. Hein. Et puis donc, faire entre guillemets de la pub, marcher avec nous. Et puis nous sommes en train, enfin, nous sommes, pas moi, mon équipe est en train de relancer tout doucement l'association politique, ce n'était pas un parti politique.
L'association de soutien, c'est ça ?
L'association de soutien, l'association Rebâtir la France. Je précise que la loi impose, pour être un candidat à la présidentielle, d'être soit membre d'un parti politique, soit d'être soutenu par une association politique. Mmh. Donc, comme je suis très opposé au système désastreux des partis, nous avons refusé de créer un parti politique, mais mes amis avaient créé une association politique pour me soutenir, dont je n'étais même pas membre d'ailleurs. Eh bien, nous sommes en train de la relancer. Elle s'appelle Rebâtir la France.
Donc l'association Rebâtir la France, et donc il y aura des comités locaux, j'imagine.
Eh bien, il y en aura, il faudra tout refaire, parce que depuis 2017, bien sûr, elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas dissoute, mais bon... Elle est en sommeil.
Et donc avec un site internet, j'imagine aussi.
Il y aura tout cela, hein, si vous voulez. Hein. Mais elle avait été créée à l'été 2016, mais c'était le nombre d'adhésions, de cotisations énorme. Hein, c'est-à-dire que ça répond à un besoin.
Et donc là,
national, un besoin.
Donc là, vous sous-entendez que vous allez tout faire pour y retrouver pour vous représenter.
Non, c'est pas moi qui. Attendez.
Enfin,
moi,
que vous allez répondre à l'appel pour vous représenter.
Voilà. C'est ça. Hein, je précise, je ne suis pas un politicien. Si j'étais un politicien, en 2017, j'aurais dit oui à la société secrète et j'aurais été élu à la place d'Emmanuel Macron. Mais j'aurais été obligé de faire la même chose que lui. Donc, je refuse.
Oui, j'entends. Donc vous allez.
Je refuse. Donc si je m'engage, c'est par devoir pour servir mon pays et le peuple. Voilà. Et l'humanité éventuellement. Bon. Sans prétention, hein. Voilà, mais pour servir, hein. Surtout dans une situation telle que nous sommes aujourd'hui. Donc, mais les gens qui travaillent autour de moi, qui m'ont demandé de venir, ont très bien compris cela, et ils s'investissent de plus en plus. Voilà, les choses avancent vraiment, et moi, donc, cela confirme mon devoir, donc je continue. Maintenant, présidentiel 2027 ou pas, je ne sais pas, on verra.
Qu'est-ce qui va être le déclic pour, quand vous dites j'attends le soutien populaire, qu'est-ce qui va être le déclic pour vous lancer ? À partir d'un nombre précis de personnes qui vous appellent ?
Il y a d'abord des conditions. Est-ce qu'il y aura des élections ? Parce que la situation.
Alors, s'il n'y a pas d'élection.
Il peut très bien ne pas y avoir d'élection à cause de la situation militaire, économique, etc. Et ce qui se passe en ce moment, regardez, le prix du gaz, du pétrole augmente terriblement. On peut se retrouver dans une situation de précarité terrible. Donc, avec des mouvements de foule, peut-être, j'espère pas, surtout pas de guerre civile, pas ça. Voilà. Hein? Bon. Mais on peut se retrouver dans une situation très difficile. Ce n'est pas une certitude. Bon. Mais s'il y a une élection, bon, écoutez, moi, éventuellement, j'irai, mais on va beaucoup travailler sur les conditions pour y aller, parce que l'expérience de 2017 fait que, dans la situation actuelle, ça sera difficile.
Ben,
Voilà.
mon général, je vous remercie infiniment. Nous avons passé près d'une heure ensemble. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je rappelle à tous nos auditeurs donc, qui peuvent acheter le livre du général Didier Tauzin, Elle s'appelle France et nous appelle au secours. Sauvons-la et rebâtissons-la sur le roc de la Grande Charte de France. Et je vous retrouve juste après la musique avec notre invité suivant. Merci à tous. Merci, mon général.
Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt, j'espère.
Bonjour chers auditeurs, rebonjour. Dans l'esprit de notre invité précédent, j'ai donc le plaisir de recevoir Nicolas Pouvron-Monty, cofondateur et directeur général de l'Observatoire de l'immigration fondé en 2022. L'adresse du site, c'est toujours important le site, https://observatoire-immigration.fr. Observatoire-immigration.fr. Et comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous pouvez vous poser vos questions à courtoisie@rc.fr ou téléphoner au 01 46 51 00 85. Alors Nicolas, c'est un de ces hommes qui œuvre modestement depuis plusieurs années pour la France. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un think tank indépendant politiquement qui se donne pour objectif d'éclairer les Français et le débat public sur les questions migratoires et démographiques. Pour reprendre vos propres termes, l'OID souscrit à la nécessité de contrôler efficacement les flux migratoires ainsi que l'objectif d'une natalité dynamique. Alors, grâce à l'OID qu'il a créé, il alerte sans relâche les pouvoirs publics et les Français des enjeux de l'immigration, à savoir, donc j'ai listé un certain nombre de questions, quelle est la nature de l'immigration aujourd'hui, en termes de nombre d'immigrés présents, en termes de flux, l'assimilation n'est-elle pas irréalisable au regard du nombre d'immigrés présents sans compter les flux entrants? Qui ne tarissent pas? Quelles sont les conséquences économiques, culturelles en matière de délinquance qui se posent? Ne faut-il pas envisager la remigration, la question de moins en moins taboue? L'État français est-il conscient de la situation? Est-il incapable ou est-il couard ou complice? Et question fondamentale pour notre identité, le tabou à briser. Moi, je dirais que même que c'est la question, la France, Nicolas, sera-t-elle toujours la France demain? Le remplacement culturel est-il imminent? Alors, avant de vous laisser la parole, je vous tire mon chapeau pour ce think tank, Nicolas. Merci de votre présence.
Écoutez, merci à vous Thomas pour votre invitation et pour vos mots qui me touchent évidemment beaucoup. Alors vous avez abordé, c'est normal, bien des questions en même temps parce que toutes sont liées entre elles en vérité. Je pense qu'il y a deux choses qui méritent d'être dites sur la situation de l'immigration en France qui vont à rebours des deux grandes techniques rhétoriques finalement qui sont souvent utilisées par ceux qui veulent, j'allais dire, tamiser le caractère radicalement inédit et fort des réalités que nous vivons. Il y a d'une part une stratégie bien connue de relativisation sur le thème il n'y a pas plus d'immigration en France aujourd'hui qu'hier, la France a toujours été un pays d'immigration, etc. C'est factuellement faux. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, quels que soient les indicateurs qu'on prend, on pourra y revenir, hein, les flux, les stocks, les titres de séjour, l'immigration clandestine, le recensement, etc. Et la deuxième technique, c'est souvent une forme de naturalisation du phénomène, c'est-à-dire qu'il y aurait de l'immigration comme il y a de la pluie ou du soleil, ce serait un phénomène quasiment physique que le pouvoir politique ne pourrait pas envisager ni de réguler et encore moins d'arrêter s'il souhaite l'arrêter.
Ça fait partie de la vie, quoi.
C'est ça, ça fait partie de la vie. Or, il se trouve qu'on touche un tout petit peu à la raison d'être de l'État, c'est-à-dire sa capacité à choisir qui entre et qui se maintient sur le territoire, à faire assurer le respect des lois, à garantir les conditions concrètes de la paix civile dans un pays sur le long terme. Et si l'État considère qu'il n'est plus en mesure de remplir sa mission sur ce sujet, il va de soi qu'il met en cause sa légitimité même. Et c'est vrai que sur le thème de l'immigration, on oppose souvent ce qui serait la réalité abstraite, pure et parfaite des statistiques d'une part, et d'autre part ce que serait le ressenti empirique des Français, qui serait forcément biaisé, fantasmatique, etc. Or, quand on travaille sur le fond de ces sujets, et vous l'avez dit, ça fait maintenant quelques années qu'on le fait à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, on se rend compte par bien des aspects que les Français ont plutôt raison de voir ce qu'ils voient, et il s'agit de leur donner les moyens, ainsi qu'à nos dirigeants, à la fois de dire ce qu'ils voient de manière factuelle, incontestable et absolument établie, d'une part, et puis d'autre part, notamment quand on s'adresse aux dirigeants, il s'agit de leur dessiner les voies et moyens pour redresser la situation du pays sur ce sujet. Parce que quand on pose le genre de constat qu'on est amené à poser, évidemment, on peut difficilement se contenter de constats.
Merci, Nicolas. Alors, j'ai lu vos notes sur Internet, sur le site. Et notamment, vous avez sorti deux notes, l'immigration subsaharienne et la note sur immigration et élections municipales. Alors, je vais aborder, vous poser une question sur la deuxième note qui m'a un petit peu surprise. Pourquoi ? Alors d'abord, les élections municipales, c'est dans 10 jours, 15 jours, une semaine ?
Oui, c'est ça, une dizaine de jours.
Alors, c'est intéressant parce que dans vos propos, vous parlez de l'État. Parce que, effectivement, l'immigration concerne l'État. Et vous faites une note sur immigration et élections municipales. Alors, est-ce qu'on doit en tirer la conclusion que les municipalités, malgré elles, absorbent l'immigration, je dis bien malgré elles, ou que, et je vous laisserai répondre même si j'ai une petite idée de la réponse, ou que les municipalités ont aussi leur part de levier pour décider ce qu'elles veulent faire en matière d'immigration et d'assimilation ?
Écoutez, les deux choses sont vraies. C'est-à-dire que d'une part, il est clair que l'immigration est un sujet régalien, par définition, un sujet qui relève de l'État, de son autorité, et qui doit en relever. Hein, c'est la nature de notre discussion précédente. Et donc, les grandes tendances de l'immigration, elles se dessinent au niveau national, elles se dessinent avec notre politique, ou plutôt notre absence de politique migratoire. D'une part, ça c'est vrai. Mais d'autre part, les municipalités, et plus largement les collectivités territoriales, ont des marges de manœuvre qui ne sont pas gigantesques, mais qui existent pour travailler à se rendre un peu plus ou un peu moins attractive pour certains types d'immigration. On s'en rend compte notamment quand on retrace, et c'était également le cas dans cette étude sur l'immigration et les municipales, quand on retrace les dynamiques de l'immigration dans certains territoires en particulier. C'est-à-dire que si on prend les 15 dernières années, les villes dans lesquelles l'immigration a le plus augmenté sont globalement des villes du Grand Ouest, qui à la fois partaient de plus loin en termes de population immigrée, mais qui ont connu un rattrapage très rapide avec des phénomènes parfois vraiment stupéfiants. Vous voyez, la part de population immigrée a doublé au Mans, à Brest, à Caen, dans des petites villes de
la
Bretagne.
La région de Rennes, où j'habite.
Absolument, dans des petites villes de Bretagne, elle a pu être multipliée par 5, par 6, par 8. Il y a différentes raisons à ça. Certaines de ces raisons ouvrent des voies d'action aux municipalités, d'autres un peu moins. Le premier facteur, clairement, c'est la politique du logement. Ça a beaucoup à voir avec la loi SRU.
Les logements sociaux.
Les logements sociaux, absolument, qui sont aujourd'hui devenus des logements dans lesquels les populations immigrées sont surreprésentées. On a environ 35% des immigrés en France.
J'ai vu vos statistiques éloquentes sur le site. Le lien entre immigration et logement social.
Tout à fait. Mais je vous en prie, 35% des immigrés en France vivent en logement social. C'est trois fois plus que les personnes sans ascendance migratoire. Beaucoup plus sur certaines immigrations, la moitié des immigrés algériens, quasiment 60% des immigrés maliens ou sénégalais. Et donc évidemment, le fait d'imposer la construction de logements sociaux dans des communes qu'on estime sous-dotées en la matière, c'est aussi un facteur de transformation démographique de la ville. Donc évidemment, il y a une contrainte législative, mais certaines villes choisissent d'aller au-delà du quota et d'autres, à l'inverse, essayent d'aller en dessous, quitte à payer des amendes. Donc c'est des choix politiques. Le deuxième volet d'action, c'est ce qu'on pourrait appeler le continent des subventions aux associations favorables à l'immigration. Et de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont très assumées. C'est-à-dire que des villes comme Rennes, Nantes ou Rouen font partie d'une association qui s'appelle l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui s'engage, c'est dans sa charte, en faveur d'un accueil inconditionnel de l'immigration. Et donc ça implique notamment de subventionner un tissu associatif assez dense pour servir de guichet d'accueil à des flux d'asile, des flux irréguliers, des flux de regroupement familial. Donc une politique municipale inverse peut choisir typiquement de couper dans ses subventions et de rompre avec cette logique d'accueil inconditionnel. Et puis enfin, il y a un troisième levier qui a vraiment trait aux moyens d'action des municipalités sur les décisions migratoires. Typiquement, quand vous êtes un étranger extra-européen et que vous avez un visa de court séjour pour la France, vous devez, dans la plupart des cas, demander une attestation d'accueil dans l'endroit où vous allez être hébergé. Typiquement, si vous allez visiter de la famille qui est déjà installée. Cette attestation d'accueil, elle doit être signée par les municipalités, qui peut choisir ou non de la signer, qui peut choisir de vérifier si les conditions de logement sont bien respectées, s'il n'y a pas déjà eu un détournement de cette procédure par cette famille pour un des titulaires de visa qui se serait ensuite maintenu sur le territoire. Donc ça fait aussi partie des leviers sur lesquels les municipalités peuvent agir. Elles sont parfois sollicitées sur les procédures de regroupement familial aussi. Évidemment, ça ne suffit pas à inverser ce qui pourrait être la politique globale de l'immigration, qui est plutôt marquée par une accélération migratoire très forte, mais ça peut viser en tout cas à essayer d'en limiter autant que possible les effets, si c'est ce qu'on souhaite, dans les villes dont on a la charge.
Donc en matière concrète, de manière concrète, quand les auditeurs vont choisir leur candidat pour voter dans 10 jours, une semaine, une question, c'est le logement social, si je comprends bien.
Oui,
une question très concrète, c'est le logement social.
Très, très clairement. Et d'ailleurs, si vos auditeurs souhaitent pouvoir interroger directement leur candidat sur leur ville en particulier,
allez-y, c'est intéressant.
Nous avons mis en ligne sur le site de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, observatoire-immigration.fr, la première carte qui permet de visualiser directement les données locales d'immigration. C'est-à-dire dans l'ensemble des communes, dans l'ensemble des quartiers de France, là où vous habitez, vous aurez accès aux dernières données disponibles du recensement sur la part des immigrés dans la population et son évolution depuis les années 2000, la part des immigrés qui vivent en logement social et la part des logements sociaux occupés par des immigrés, la part des immigrés sans emploi, ce qui est un vrai sujet, l'intégration sur le marché du travail de l'immigration en France plus que chez nos voisins. Vous pourrez voir quelle est la réalité dans votre territoire et on se rend compte quand on utilise cet outil que dans certains territoires, l'accélération de l'immigration a produit des effets de saturation en termes sociaux et budgétaires qui sont très marquants. Pour n'en prendre qu'un exemple qui est celui de Limoges. Vous voyez, Limoges, capitale du Limousin, qui n'est pas l'une des grandes régions d'accueil de l'immigration historiquement, absolument, au centre de ce que les géographes appellent la diagonale du vide. Eh bien, à Limoges, depuis 2006, la population immigrée a augmenté de 50%. On a quasiment 50% des immigrés qui sont sans emploi. Si on prend tous les immigrés de plus de 15 ans, qu'on enlève les retraités et les étudiants, parmi ceux qui restent, 50% sont sans emploi. Et on a quasiment 50% des immigrés qui vivent en logement social. Donc on se rend compte de l'effet local que peut avoir l'accélération des flux, qui est un phénomène qui est engagé depuis maintenant deux décennies.
Alors Nicolas, juste une parenthèse sémantique. Quelle est la définition du mot immigré ? Puisqu'on on prononce, mais c'est intéressant quand même de se rappeler de ça.
Vous avez raison, il y a souvent des confusions qui sont très compréhensibles sur ce thème. Au sens de la statistique publique française, de l'INSEE, un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. Par exemple, quelqu'un qui est né algérien en Algérie, ou même qui serait né marocain en Algérie, et qui serait ensuite venu s'installer sur le territoire national. Donc né étranger à l'étranger, résident en France. Sachant qu'une part de ces immigrés ont depuis été naturalisés. C'est-à-dire qu'ils restent immigrés au sens de la statistique publique. En revanche, ce ne sont plus des étrangers. Un étranger, c'est quelqu'un qui vit sur le territoire français sans en avoir la nationalité, en ayant la nationalité d'un autre État et pas la nationalité française. Et donc, cette population immigrée, aujourd'hui, au sens strict, elle représente en France un peu moins de 8 millions de personnes, 7,7 millions de personnes. C'est un nombre historique. Globalement, la population immigrée a augmenté de 75% depuis l'an 2000. Elle augmente, et ce qui est notamment frappant, c'est qu'elle augmente de manière de plus en plus rapide. C'est-à-dire que sur les dernières données qu'on ait, recensement 2024, la population immigrée a augmenté de 434 000 personnes cette année-là. C'est autant que sur les trois années précédentes cumulées. C'est 4 fois la moyenne d'augmentation annuelle des années 2000. C'est 25 fois la moyenne des années 90. Donc on voit qu'on a vraiment une dynamique d'emballement très forte. Et si on ajoute à cette population immigrée une autre catégorie avec laquelle on la confond parfois, qui est celle des descendants d'immigrés. Un descendant d'immigré, c'est quelqu'un qui est né en France d'un ou deux parents immigrés.
Alors là, vous l'appelez... La sémantique dit quoi là-dessus ?
Descendant d'immigrés.
Descendant d'immigrés. Donc c'est pas immigré, c'est descendant d'immigrés.
Absolument. D'accord. Descendant d'immigrés de deuxième génération, en l'occurrence, ce qui représente environ 8 millions de personnes en France. Et donc, si on additionne la première et la deuxième génération...
Il y a 15.
Alors, on peut estimer qu'on a en France environ 15 millions de personnes qui sont effectivement d'origine immigrée sur deux générations, ce qui fait 23% de la population.
Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'État. Les flux. Les flux. Parce qu'on parle du mot stock, qui n'est pas très beau d'ailleurs, je trouve.
Oui, c'est un peu mathématique.
C'est pas très beau. On parle du mot stock et du mot flux. Mmh. Tous les gouvernements disent qu'ils vont soit faire cesser les flux, soit les considérablement les affaiblir, mmh. et ça continue. Est-ce que pour vous, c'est de l'hypocrisie, c'est un manque de volonté politique, c'est une impossibilité pratique ? Quelle est, selon vous, la cause, ou quelles sont les causes ?
Je dirais qu'il y a, un double niveau de responsabilité, une responsabilité active et une responsabilité passive. La responsabilité passive vient du fait que nos gouvernants ont accepté que de larges parts de la politique migratoire ne soient plus entre leurs mains, ne soient plus entre les mains ni du gouvernement ni du Parlement, à peine entre les mains d'ailleurs de l'Union européenne comme institution politique. Si vous prenez par exemple le cas du droit d'asile, qui est le canal d'immigration qui a le plus augmenté ces 10 dernières années, il y a aujourd'hui environ 700 000 étrangers bénéficiaires de l'asile en France, c'est l'équivalent d'une ville qui serait la troisième du pays. 700 000, c'est un triplement en 10 ans. Et rien que l'an dernier, le nombre de nouveaux titres de séjour accordé pour droit d'asile a augmenté de quasiment 70%, et bien c'est un droit sur lequel le politique n'a aujourd'hui aucune prise. C'est régi en haut par des grands traités surplombants, la Convention de Genève de 51 notamment, en aval par des juges qui interprètent ces traités, la Cour nationale du droit d'asile par exemple, et il n'y a aucune forme d'intervention politique en la matière. Mais évidemment c'est une responsabilité passive, parce qu'un gouvernement pourrait aussi décider de sortir de ce régime de l'asile. Donc il y a ce premier volet-là, on pourrait dire la même chose sur l'immigration familiale, qui est protégée à tous les niveaux, et il y a un deuxième volet qui relève d'une responsabilité active dans les flux, et l'archétype de ça, c'est vraiment l'immigration étudiante. L'immigration étudiante, c'est un champ d'immigration sur lequel il y a assez peu de contraintes constitutionnelles ou européennes ou liées au traité.
C'est une porte d'entrée.
C'est une porte d'entrée, absolument. Depuis 2019, le gouvernement a fixé une stratégie qui s'appelle Bienvenue en France, qui consiste à avoir absolument à tout prix 500 000 étudiants étrangers en France en 2027. Et donc ça implique que le nombre de nouveaux titres de séjour étudiants qu'on accorde chaque année a augmenté de 70% en 10 ans. C'est maintenant le premier motif d'octroi des nouveaux titres de séjour. Sauf que très peu de sélections académiques, les deux tiers des étudiants étrangers ne valident pas leur licence en 3 ans. Très fort niveau de dépendance sociale, plus d'un tiers des places dans les résidences CROUS sont occupées par des étudiants étrangers, la moitié des aides d'urgence sociale des CROUS vont aux étudiants étrangers. Et puis troisième sujet évidemment, le détournement de ce canal à simple fin d'installation migratoire. Là ça dépend beaucoup des nationalités, mais si on prend le cas des Algériens par exemple, vous prenez tous les Algériens entrés en France une année donnée avec un motif étudiant, vous les retrouvez 8 ans plus tard, 61% ont toujours un titre de séjour valide en France, dont les deux tiers pour motif familial. Donc clairement, le titre étudiant était un moyen de mettre le pied sur le sol français en situation régulière. Et donc c'est la conjonction de ces deux types de responsabilités, active et passive, qui fait que quand on parle des flux, on parle effectivement de records. L'an dernier, 384 000 nouveaux titres de séjour, c'est trois fois le nombre qu'on accordait en 1997 sous le gouvernement de la gauche plurielle. Et c'est évidemment une tension démocratique très forte, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, mais l'opinion publique n'a jamais été aussi opposée à l'immigration dans son ampleur et ses natures contemporaines.
Alors vous dites l'opinion publique n'a jamais été aussi opposée. Quels sont les chiffres à ce titre-là ?
Alors je dirais qu'on a environ une enquête par mois ou une enquête tous les deux mois des instituts de sondage sur ce sujet. On se rend compte que quand on pose la question « Y a-t-il aujourd'hui trop d'immigration en France ?», quelle que soit la formulation autour de laquelle on tourne, on a toujours entre deux tiers et les trois quarts des sondés qui répondent oui. Et ce qui est très notable, c'est que c'est un constat qui est beaucoup plus transversal,
transpartisan,
absolument, aux différents électorats que ce qu'on envisage souvent.
Sauf les filles, non ?
Même pas, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez évidemment 95% des électeurs du Rassemblement National qui partagent ce constat, 80% des électeurs Les Républicains, mais aussi deux tiers des électeurs macronistes, mais aussi la moitié des électeurs socialistes, mais aussi entre un quart et un tiers des électeurs LFI. Et donc il y a une forme de disjonction entre d'une part le caractère toujours très clivant du sujet dans le débat parlementaire ou dans le commentaire médiatique, et d'autre part ce qui s'apparente de plus en plus à un consensus dans l'opinion, parce qu'il y a finalement peu de sujets de politique publique sur lesquels on a deux tiers ou trois quarts des Français qui partagent des constats. Cette tension entre d'une part l'opposition de plus en plus majoritaire de l'opinion à ces niveaux d'immigration et d'autre part les records qui s'accumulent d'année en année ne pourra pas durer éternellement. Il se trouve qu'en France, quand on a des grandes conversations nationales à avoir, on les a généralement au moment de l'élection présidentielle, et on peut espérer que l'immigration soit l'un des principaux sujets, si ce n'est le sujet principal de la campagne à venir. Elle aurait pu l'être en 2022, mais dernier feu du Covid, premier feu de la guerre en Ukraine. Elle aurait pu l'être en 2017, mais affaire Fillon. Il s'agit de ne pas manquer l'opportunité d'avoir enfin la conversation civique qui s'impose.
Merci Nicolas. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Nicolas Pouvremonti, directeur et cofondateur de l'Observatoire de l'Observatoire pour l'immigration, de l'immigration, avec le site que je rappelle, le site, rappelez le site.
Je vous en prie, observatoire-immigration.fr, et notamment dans ce qui peut intéresser le plus directement vos auditeurs à l'approche du scrutin dans 10 jours, vous aurez sur la page d'accueil du site la carte interactive qui vous permettra d'avoir les données locales sur votre commune, sur votre quartier.
Parfait. Alors, j'avais une autre question concernant l'élection municipale avant d'aborder l'autre note qui est très intéressante sur l'immigration subsaharienne. Alors, vous dites dans votre note, si j'ai bien repris l'expression, l'immigration attire l'immigration. Je ne me trompe pas, hein, j'ai lu ça. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Écoutez, ça a à voir avec ce qu'on appelle les phénomènes de diaspora, c'est-à-dire quand une population immigrée nombreuse est déjà présente dans un territoire donné, elle a vocation à servir en quelque sorte de terrain d'accueil pour des immigrés de la même origine, à la fois par des liens très directs, des liens familiaux notamment. Hein. On sait que sur une période de 15 ans, 2005-2020, la France a accueilli l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. Donc il y a ce mécanisme-là. Au-delà des liens familiaux, il y a aussi les réseaux de solidarité, les réseaux d'emploi, par exemple, qui peuvent être liés à des communautés immigrées en particulier, les réseaux d'échange avec le pays d'origine aussi. Et donc c'est ce qui fait notamment, et ça fera sans doute la transition avec le sujet sur les subsahariens, que la France est structurellement, par exemple, le pays qui accueille l'immigration la plus africaine d'Europe, trois fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans la population immigrée. Et le fait qu'on ait déjà cette surreprésentation-là, c'est aussi un facteur d'accélération des nouveaux flux en provenance notamment d'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a ces effets de diaspora et que, effectivement, l'immigration attire l'immigration.
Alors, justement, pour rebondir sur l'immigration subsaharienne, et je vais coupler ma question avec celle d'un auditeur qui demande pourquoi on ne supprime pas la double nationalité, le regroupement familial, déjà dans un premier temps, pour tarir les flux. Et donc, ma question première sur l'immigration subsaharienne, pourquoi parler d'immigration subsaharienne? Enfin, j'imagine qu'il y a un contexte.
Oui, bien sûr. Il nous a semblé qu'on avait beaucoup parlé d'un certain nombre de pays d'origine dans le débat migratoire ces derniers mois, notamment de l'Algérie, et absolument à juste titre, à titre absolument légitime, mais qu'on parlait finalement assez peu de cette immigration-là, donc en provenance d'Afrique subsaharienne, de l'Afrique qui n'est pas le Maghreb, globalement.
Pardon, je vous coupe, Nicolas, définissez ce que c'est que subsaharien, s'il vous plaît.
Bien sûr. Alors, dans le contexte de notre étude, c'est tout le continent africain, à l'exception du Maghreb. L'exception du Maghreb qui est évidemment très présente historiquement dans la nature de l'immigration en France depuis les années 60 ou 70. Évidemment, ça implique que dans les chiffres dont on parle, il puisse y avoir quelques Égyptiens ou quelques Libyens qui ne sont pas exactement subsahariens au sens géographique, mais c'est extrêmement marginal dans la nature de l'immigration dont on parle. Donc en fait, on parle de l'Afrique hors Maghreb, parce que c'est ce qu'on a parfois appelé historiquement l'Afrique noire. Ça nous semblait vraiment important d'en parler parce que cette immigration en provenance d'Afrique subsaharienne, c'est vraiment l'un des principaux moteurs de l'accélération de l'immigration depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 2006, la population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne en France a augmenté de 150%. C'est trois fois plus que la moyenne de la population immigrée, qui n'a augmenté que de 50%. Et c'est aussi l'immigration qui va poser le plus de questions politiques à l'avenir, parce qu'il y a un double déséquilibre avec l'Afrique subsaharienne. D'une part, un déséquilibre des niveaux de vie, bien sûr, le PIB par habitant du Mali, par exemple, est 50 fois inférieur à celui de la France. Et d'autre part, un déséquilibre démographique très fort, avec une population jeune, nombreuse, qui fait beaucoup d'enfants. Beaucoup plus, par exemple, que n'en font les pays du Maghreb. C'est-à-dire que le Maroc ou la Tunisie sont passés sous le seuil de renouvellement des générations, alors que si vous prenez les 5 pays du monde qui ont le plus fort indice de fécondité, 4 sont des pays d'Afrique francophone. 6 enfants par femme au Mali, quasiment 6 enfants par femme en République démocratique du Congo. Et donc la pression migratoire qui s'amorce pour le siècle qui vient, notamment dans le cas français et notamment en raison de la structure de l'immigration que nous avons déjà, elle viendra pour l'essentiel de l'Afrique subsaharienne. Donc ça implique qu'elle soit anticipée et que les politiques se donnent les moyens d'y répondre.
Alors ceux qui viennent sont plutôt francophones ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes zones principalement dans l'immigration subsaharienne. Il y a ce qu'on appelle l'immigration d'Afrique sahélienne, donc au sens de l'INSEE, c'est essentiellement le Mali et le Sénégal. bon, y a très peu de Nigérians, très peu de Burkinabés, c'est essentiellement Mali et Sénégal. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'Afrique guinéenne et centrale, où là, on a parmi les principaux pays la Côte d'Ivoire, le Cameroun.
Donc francophone.
Francophone, absolument. La République démocratique du Congo, qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus parmi les demandeurs d'asile en France, pour différentes raisons. Donc oui, il y a cet effet de langue, bien sûr. Il y a un effet de diaspora, lié au fait qu'il y a déjà des communautés nombreuses de ces pays qui sont installées en France. Et puis il y a aussi un effet d'attractivité de la France pour certaines catégories d'immigration à motivation sanitaire et sociale, dirons-nous, qui font qu'au-delà de ces raisons structurelles liées à la langue et liées aux diasporas qui sont déjà présentes, typiquement pour ce qui est des flux d'asile, alors que le nombre de demandes d'asile a baissé globalement de 20% dans l'Union européenne l'an dernier, on se maintient à un niveau très haut de notre côté, à environ 120 000 premières demandes l'an dernier, et avec une très forte part de demandeurs qui viennent de ces pays d'Afrique francophone. Le droit d'asile est globalement le même dans tous les pays européens, alors il y a des différences de jurisprudence parfois, mais sur tous les aspects matériels de l'accueil des demandeurs d'asile, le montant de l'allocation pour demandeurs d'asile, les conditions de soins, l'hébergement ensuite quand on est débouté, la France se rend plus attractive que ses voisins, et c'est aussi l'un des autres facteurs d'explication.
Alors le droit d'asile, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que dans le droit, concernant le droit d'asile, c'est une venue temporaire, c'est-à-dire quand le pays d'origine revient dans ses conditions initiales, la personne doit rentrer, c'est bien ça, non ?
Alors c'est ce qui était prévu dans l'esprit des textes originels, ouais, mais clairement ça n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Le droit d'asile est devenu un moyen d'installation pérenne sur le territoire, et en fait l'administration l'admet, notamment parce que lorsque vous obtenez un statut de réfugié, vous avez le droit tout de suite à un premier titre de séjour de 10 ans. Il y a quasiment aucune autre catégorie d'immigration où on donne tout de suite un titre de 10 ans. Donc c'est une logique évidemment d'installation très, très durable. Et puis par ailleurs, quand on parle du droit d'asile, parfois chez les Français, il y a une forme d'image d'épinal de ce que peut être le droit d'asile. C'est-à-dire on pense Solzhenitsyn, on pense Boat People, on pense à des dissidents d'Europe de l'Est notamment. Or, aujourd'hui, le droit d'asile, c'est beaucoup plus large que ça. On avait pu estimer avec l'Observatoire de l'immigration en début d'année dernière qu'il y a aujourd'hui à travers le monde environ un demi-milliard de personnes, 580 millions, qui remplissent les critères pour avoir l'accès à l'asile. Et pour vous donner juste quelques exemples de situations qui donnent droit à l'asile en France aujourd'hui, rien que l'an dernier, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu comme éligible au statut de réfugié en France l'ensemble des femmes de Somalie, par exemple, 10 millions de personnes, après l'avoir fait pour l'ensemble des femmes afghanes. Les enfants congolais accusés de sorcellerie devenus adultes, il y avait déjà les albinos du Nigeria qui souffrent du même genre de persécution. Les personnes homosexuelles du Guatemala, après celles du Togo, du Congo, de la Birmanie. L'ensemble des Palestiniens de la bande de Gaza. En ce mois de janvier, les personnes transgenres du Pérou sont devenues un groupe social collectivement éligible à l'asile en France. C'est sans fin. Alors là, on parle de nombres qui sont souvent anecdotiques, mais ça montre la logique du système qui va bien au-delà de l'asile strictement politique. Vous voyez, si on prend le préambule de 46, tout étranger persécuté pour la cause de la liberté a le droit d'asile sur les territoires de la République, eh bien, parmi 70 000 personnes qui ont obtenu l'asile en France en 2024, ce principe-là, ça a concerné littéralement deux personnes. Seulement deux personnes sur 70 000 ont obtenu l'asile sur le fondement de ce préambule des étrangers persécutés pour la cause de la liberté. Aujourd'hui, on parle de réalité bien plus large.
D'accord. J'ai une question un peu vaste. Si vous prenez l'immigration dite asiatique, celle dite d'Afrique du Nord, celle dite subsaharienne, et celle dite, pourquoi pas, des années 60-70 avec les Italiens, les Portugais, les Espagnols, si vous prenez ces groupes-là, comment est-ce que vous voyez, un, les différences d'assimilation, et deux, les causes à ces différences-là? Je sais que c'est une question très ouverte,
mais bien sûr.
C'est toujours intéressant.
Alors, pour ce qui est des différences, avant d'en venir aux causes, elles sont assez incontestables et elles impliquent un constat qui devrait être admis par tous. Il y a clairement des immigrations avec des trajectoires d'intégration dans le pays d'origine, dans le pays d'accueil plutôt, qui sont radicalement différentes. Le cas de l'immigration asiatique que vous citiez est vraiment saisissant de ce point de vue-là. Aujourd'hui, en France, il y a environ 350 000 personnes qui sont soit immigrées, soit descendants d'immigrés du Vietnam, du Cambodge ou du Laos, par exemple. C'est ce que l'INSEE appelle l'Asie du Sud-Est. Dès la première génération, vous avez chez ces immigrés d'Asie du Sud-Est un taux d'emploi qui est au-delà de 70%, qui est même meilleur que celui des Français sans ascendance migratoire directe. Vous avez un taux de propriétaires plus élevé que celui des Français sans ascendance migratoire directe et un taux de présence en logement social qui est beaucoup plus faible que la moyenne des immigrés. à la deuxième génération, vous avez des phénomènes de surperformance éducative qui sont assez spectaculaires. Par exemple, vous avez 40% des descendants d'immigrés vietnamiens ou cambodgiens qui ont un diplôme supérieur à Bac plus 2, à peine 5% qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau collège. Donc c'est, on pourrait multiplier les indicateurs, hein, c'est aussi un taux d'endogamie, donc de mariage avec des gens de la même origine, qui est parmi les plus faibles de toutes les origines migratoires, donc c'est quand même un indicateur d'une intégration culturelle au-delà de la seule intégration économique et sociale. Et évidemment, si vous prenez les immigrés subsahariens, vous avez des résultats un peu différents, notamment sur le plan économique. Le taux de chômage des immigrés subsahariens en France, c'est le double de celui des Français sans ascendance migratoire. C'est même le triple pour la deuxième génération, donc ces questions ne se résolvent pas naturellement avec le passage du temps. Et le deuxième aspect qui est dans l'explication finalement de ces différences, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Pour ce qui est de l'immigration d'Asie du Sud-Est, le modèle familial joue un rôle vraiment important. Le démographe Gérard-François Dumont a pu l'écrire notamment, hein, le modèle familial des familles vietnamiennes avec une insistance très forte donnée sur l'école, sur le respect de l'autorité, sur la confiance dans la société d'accueil, c'est évidemment un plus très fort. Et puis je dirais que ça dépend aussi de la situation des pays d'origine. C'est-à-dire que sur les dernières données qu'on a, 2023, en 2023, la France a accueilli une part de nouveaux immigrés venant de pays à niveau de développement humain faible, trois fois supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Donc le développement humain, c'est le niveau de revenu, mais c'est aussi le niveau d'éducation, c'est aussi le niveau de santé. Et donc évidemment, à l'arrivée en France, c'est notamment le cas pour un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, il y a un petit delta à combler. Donc ça fait partie des faisceaux d'explication, entre autres choses.
Alors, il nous reste quelques minutes. Comment ? Il nous reste 4 minutes. Une minute. Alors, très rapidement, avant de conclure, comment est-ce qu'on peut vous aider ? C'est une question très simple. Comment est-ce qu'on peut vous aider, puisque vous êtes indépendant financièrement, indépendant politiquement ? Je le rappelle aux auditeurs, parce que c'est très important pour la fiabilité, l'authenticité, l'objectivité de vos études. Donc, je vous laisse la parole pour qu'on puisse savoir comment vous soutenir.
Écoutez, il y a deux façons de nous soutenir. La plus immédiate et la plus simple, c'est de lire et de partager nos travaux, qui sont donc disponibles sur notre site. Et par ailleurs, on est assez présent dans les médias audiovisuels et écrits. Et la deuxième façon de nous aider, qui conditionne un peu toutes les autres, c'est aussi de nous soutenir financièrement. L'OID, vous l'avez dit, Thomas, est un observatoire indépendant qui ne touche aucun euro d'argent public. À titre de comparaison, nos moyens sont littéralement 200 fois inférieurs à ceux de France Terre d'Asile, qui fait un militantisme très fort en faveur des conditions d'accueil plus larges de l'immigration. Et donc, vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site observatoire-immigration.fr, donc qui est déductible à 66% de l'impôt sur le revenu. Ça nous est évidemment très précieux.
Merci Nicolas, merci beaucoup.
Merci à
la technique. Nous nous retrouvons dans un mois pour une prochaine émission. Merci chers auditeurs de votre fidélité et vive la France.
Vous venez d'entendre le libre journal Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 6 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.